Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour et bienvenue à cette édition du programme en français de ce samedi 3 juillet. Bertrand Tonganamé pour vous accompagner. Dans cette édition, comme tous les samedis, nous avons notre rubrique rétro. Nous reviendrons sur la loi sur la laïcité, une loi qui a fondé effectivement la République française. Et aussi dans cette édition, nous allons passer en revue des activités de l'Alliance française de Melbourne et nous verrons également donc la distribution d'un nouveau, en fait, le lancement d'une nouvelle campagne vidéo pour combattre l'hésitation vaccinale. Mais avant cela, l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 35 nouveaux cas de COVID-19. Selon la première ministre de l'État, cela témoigne du succès du verrouillage de la ville de Sydney. Et l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'inégalité actuelle des vaccins. Et selon un nouveau rapport publié en France, 3 EHPAD sur 4 ont été touchés par le COVID-19 en 2020. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré 35 nouveaux cas de COVID-19 transmis par la communauté. 9 étaient contagieux alors qu'ils étaient dans la communauté et les autres étaient déjà isolés. Selon la première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, c'est un signe positif. Selon elle, cela témoigne que la propagation communautaire est limitée et que le confinement fonctionne.
As predicted, the number of cases are going up. We're seeing a greater proportion of those cases in isolation, which is exactly what we want to see. So the green shoots are there. The green shoots of the lockdown doing what we hoped it would are certainly there. We haven't seen a huge surge in cases, and we certainly feel through our contact tracing that we're not at this stage missing any chains of community transmission.
Il faut signaler que plus de 56 000 personnes ont été testées au cours de la période de référence. Pendant ce temps, au Victoria, les anti-vaccins ont été invités à garder leurs théories non fondées pour eux-mêmes après qu'un manifestant a menacé le personnel d'un centre de vaccination à Melbourne. Le ministre de la Santé du Victoria, Martin Foley, a révélé qu'un anti-vaccin a fait irruption dans un centre de vaccination de masse contre le COVID-19 à Cranbourne, dans le sud-est de la ville. Hier matin, le manifestant a proféré des menaces et des insultes contre le personnel infirmier. La police a été appelée sur les lieux de l'incident. Monsieur Martin Foley a noté qu'il y avait eu une augmentation des rapports d'abus verbaux, de remarques racistes et de crachats envers le personnel des soins de santé et des centres d'appel. Monsieur Foley fustige ce comportement et demande aux anti-vaccins de garder leur théorie pour eux.
Get Victoria Police involved and make further efforts to make sure that these anti-science, anti-evidence, dangerous fanatics are held to account.
Le Victoria n'a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus acquis localement au cours des dernières 24 heures. Et en France, alors que les autorités sanitaires tentent de convaincre les personnels soignants de se faire vacciner et envisagent même de rendre les injections obligatoires pour ces professionnels, la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux a publié hier son rapport sur l'évolution de l'épidémie en France métropolitaine. Il en ressort que près de 30 000 personnes sont mortes de COVID-19 dans les EHPAD. Précision, Marie Casadebet pour RFI.
En 2020, seulement un quart des EHPAD ont été épargnés par l'épidémie. Sur les 7500 établissements pour personnes âgées dépendantes en métropole, plus de 72% ont été touchés par le Covid-19. 20% ont même déclaré un épisode critique avec au moins 10 résidents malades ou 10% de décès. Près de 600 000 personnes vivent en EHPAD. Plus d'une sur trois a contracté le virus l'année dernière. 5% y ont succombé. À l'image du reste du pays, ces établissements ont traversé deux vagues de contamination. La première était concentrée sur le nord et l'est de la France. La deuxième a frappé l'ensemble du territoire, faisant deux fois plus de malades en EHPAD que la première, mais le même nombre de morts, sûrement grâce aux tests et donc à la détection des cas asymptomatiques et à la meilleure prise en charge des formes les plus graves. Selon l'ADRES, la vaccination qui a commencé dans les EHPAD fin 2020 a permis de faire baisser la pression sur ces établissements. Près de 4700 personnes sont décédées en janvier et février dernier des suites de la maladie. Ce chiffre est tombé à 600 pour les trois mois suivants.
Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a une fois de plus demandé aux leaders mondiaux à se réunir et à résoudre les inégalités en matière de vaccins. Selon le patron de l'OMS, une distribution plus équitable des vaccins est le seul moyen de sortir de la pandémie, étant donné la grave menace posée par les variantes.
We're in a very dangerous period of this pandemic. In those countries with low vaccination coverage, terrible scenes of hospitals overflowing are again becoming the norm. But no country on earth is out of the woods yet. The Delta variant is dangerous and is continuing to evolve and mutate, which requires constant evaluation and careful adjustment of the public health response.
La variante Delta a maintenant été détectée dans près de 100 pays et se profile rapidement comme la souche dominante. La Commission européenne déclare que les doses d'AstraZeneca fabriquées en Inde par Covishield n'ont pas été approuvées par le régulateur de l'Union européenne et ne sont donc pas reconnues par l'UE. Selon les directives de l'UE, cela pourrait signifier que les 5 millions de citoyens britanniques qui ont reçu ce vaccin ne pourraient pas voyager en Europe au même titre que les pays qui ont reçu d'autres vaccins approuvés par l'Agence européenne du médicament. Selon Stéphane de Kersmacher, porte-parole de la Commission pour la santé publique de l'Union européenne, les responsables de Covishield ont été invités à demander l'autorisation de ce vaccin, mais ne l'ont toujours pas fait.
When we are dealing with vaccines that are authorized by EMA, of course, member states should accept them. If a vaccine is not authorized by EMA but listed on the WHO, member states can indeed approve this vaccine. Maybe to add to this that in order to assure a coordinated approach here, the Commission is obviously in contact, in discussion with the member states to go through these different vaccines and to see which is the best coordinated approach to follow here. Thank you.
Et l'Afrique du Sud a enregistré plus de 24 000 cas de COVID-19, son plus grand nombre de nouveaux cas depuis le début de la pandémie. Il s'agit de la troisième vague de propagation dans un pays qui a vacciné 5% de sa population d'un peu moins de 60 millions d'habitants. La vague a submergé les hôpitaux, en particulier dans la ville principale de Johannesburg. Le personnel de santé sud-africain est surchargé de travail et a du mal à trouver suffisamment de lits pour les patients gravement malades. L'Afrique du Sud déplore 60 000 décès liés au COVID-19 et a enregistré un peu plus de 2 millions de cas depuis le début de la pandémie. Et Johnson & Johnson affirme que son vaccin contre le COVID-19 à injection unique est prometteur contre la variante Delta et d'autres souches émergentes. Selon Johnson & Johnson, son vaccin offre également une protection durable contre le COVID plus largement. La firme pharmaceutique affirme que son vaccin est efficace à 85% et elle peut prévenir l'hospitalisation et la mort et devrait créer une réponse immunitaire qui durera au moins 8 mois. Et après près de 20 ans, les forces alliées ont quitté l'aérodrome des Bagram en Afghanistan, l'épicentre de la guerre contre les talibans et les forces d'Al-Qaïda responsables des attaques terroristes du 11 septembre contre les États-Unis. L'aérodrome a été remis à la Force nationale de sécurité et de défense afghane et selon le président Joe Biden, il n'y a rien d'inhabituel ou de précipité dans le processus de retrait américain.
Look, we're in that war for 20 years. 20 years. And I think I met with the Afghan government here in the White House, in the Oval. I think they have the capacity to be able to sustain the government. There's going to have to be down the road more negotiations, I suspect. But I am concerned that they deal with the internal issues that they have to be able to generate the kind of support they need nationwide to maintain the government.
Entre-temps, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, déclare que les États-Unis ont identifié un groupe de ressortissants afghans qui vont se voir accorder des visas spéciaux, mais elle ne précise pas le nombre total des bénéficiaires de ces visas.
What I can tell you is we've identified a group of SIV applicants who have served as interpreters, translators, as well as other at-risk categories. They will be relocated to a location outside of Afghanistan. There are a range of options, that will happen before we complete our military drawdown by the end of August in order to complete their visa application process from there. In terms of locations or numbers, I'm just not going to be able to get into those specifics for security reasons.
Et toujours aux États-Unis, la maire de Miami-Dade, Daniela Levin-Cava, a déclaré que la partie restante de l'immeuble de 12 étages qui s'est effondré dans l'État américain de Floride sera démolie. Le bilan de l'effondrement est désormais de 22 personnes, dont la fille de 7 ans d'un pompier de Miami. 128 personnes sont toujours portées disparues. Madame Cava affirme que la démolition de la partie restante de la copropriété ne remet pas en cause les efforts de recherche.
Our top priority remains search and rescue. I want to be very clear about that. And we will take no action that will jeopardize our ability to continue the search and rescue mission.
Et les responsables du comté de Miami-Dade ont également prévenu les habitants des dangers de l'ouragan Elsa qui semble se diriger vers les côtes de l'État. Et des hauts responsables des Nations Unies ont averti le Conseil de sécurité que plus de 400 000 personnes dans le Tigré éthiopien sont désormais en proie à la famine et qu'il y a des risques de nouveaux affrontements dans la région malgré un cessez-le-feu unilatéral décrété par le gouvernement fédéral. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu sa première réunion publique sur la question depuis le début des combats en novembre de l'année dernière entre les forces gouvernementales et le Tigré. Le responsable des Nations Unies affirme que la situation s'aggrave considérablement et que 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine et 1,8 million d'autres personnes sont au bord du gouffre. Et à présent, un coup d'œil météo à travers l'Australie, Perth 21 degrés, Adélaïde 13 degrés, Melbourne 11 degrés, Hobart 14, Canberra 11 degrés, Wollongong 20, Sydney 18, Newcastle 19, Brisbane 19, Cairns 28 et Darwin 33 degrés. Et à présent, un rappel des titres de l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 35 nouveaux cas de COVID-19 et selon la première ministre de l'État, cela témoigne du succès du verrouillage de la ville de Sydney. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'inégalité actuelle des vaccins. Et selon un rapport publié en France, 3 EHPAD sur 4 ont été touchés par le COVID-19 en 2020.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Dans l'actualité sportive de ces derniers jours, on commence avec des matchs qui se sont joués hier soir et tôt ce matin, de comptant pour l'Euro 2020. Victoire de l'Italie contre la Belgique, 2-1 à Munich. L'Italie rencontrera l'Espagne en demi-finale après la victoire de la Roja contre la Suisse plus tôt dans la journée sur pénalty. Une Suisse qui n'a pas démérité, surtout qu'elle jouait sans ses meilleurs joueurs. Je vous propose un extrait de Radio Foot International avec Annie Gasnier et Rémi Angono.
Cette équipe de Suisse qu'on était en train de parler des chocolatiers vient de nous sauver pour montrer quand même que les Français n'étaient pas en train de jouer avec les faire-valoir. On a pu le constater aujourd'hui et d'autant plus qu'ils étaient privés de leurs meilleurs éléments, dont le capitaine.
Oui.
Chaka était déjà absent ça fait de telle sorte
suspendu, que... qui était suspendu. Sur le banc, on l'a vu essayer d'haranguer ses camarades, on l'a vu aller parler à ses camarades avant la prolongation.
Et celui par qui les ballons devaient passer, parce que les ballons passent par le premier distributeur, c'est Chaka. Mmh. Il n'était pas là. Maintenant, il y avait Fröhler, qui malheureusement aussi se blesse. Et surtout...
Fröhler
a été expulsé. C'est lui qui est expulsé. Donc, et maintenant, l'attaquant qui joue souvent le pivot, Mbolo, il s'est blessé dès le début du match. Donc, pour moi, une équipe qui est amputée de trois éléments et qui produit ce qu'elle a produit, moi, j'ai dit bravo à cette équipe de la Suisse.
Oui, il dit, le sélectionneur, il n'y a pas eu cette pointe de chance lors des tirs au but et on était très fatigués, on a raté nos tirs. Effectivement, ils n'en ont mis qu'un.
Les deux autres rencontres des quarts de finale de l'Euro 2020 se joueront ce dimanche. On a la rencontre entre le Danemark contre la République tchèque et l'Ukraine contre la Grande-Bretagne. Et au tennis, après seulement 2 tours et 4 jours de Wimbledon, il n'y avait plus aucun Français en lice. 6 tricolores ont été éliminés le même jour, mais comme le souligne Christophe Diramzian, au moins un d'entre eux avait un argument de taille.
Richard Gasquet est un petit peu excusé, car il affrontait quand même Roger Federer, vainqueur 7-6, 6-1, 6-4, mais les autres n'ont pas fait mieux. Gaël Monfils, Jérémy Chardy, Benjamin Bonzi, Alizé Cornet, Clara Burel sont sortis du tableau. Pas de souci en revanche pour la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, tombeuse de la Russe Anna Blinkova, 6-4, 6-3.
Après Ash Barty, l'autre Australien à se qualifier pour le troisième tour, c'est Nick Kyrgios qui a battu l'Italien Gianluca Magher en 3-7. Après sa victoire, l'Australien a déclaré que le tennis a besoin de joueurs qui ne se conforment pas, car une fois que des champions comme Novak Djokovic et Roger Federer partiront, il y aura de la place pour d'autres joueurs, sous-entendu des joueurs comme lui.
Not everyone can be a Federer, not everyone can be a Djokovic. These are like once in decade athletes that like inspire millions of people and like are just gods. And I see them as that too. But like you got to have some people I believe that are relatable, that people can, you know, bring other fans to watch, like people that are just normal.
Ce soir, Nick Kyrgios jouera contre le Canadien Félix Auger-Aliassime. Toujours au tennis, résultat du troisième tour de Wimbledon, défaite d'Andy Murray face à Denis Shapovalov, 6-4, 6-2 et 6-2. Andrei Rublev, lui, s'est imposé en 4 manches contre l'Italien Fabio Fognini, 6-3, 5-7, 6-4 et 6-2. Victoire également de Sébastien Corda, qui s'est débarrassé de Daniel Evans en 4 manches, 3-6, 6-3, 3-6 et 4-6. Victoire également de Novak Djokovic, qui s'est imposé facilement contre Denis Kudla en 3 manches, 6-4, 6-3 et 7-6. En cyclisme, Benoît Cosnefroy a été sélectionné hier pour porter les couleurs tricolores pour les Jeux Olympiques de cet été à Tokyo. Interrogé à chaud, Benoît Cosnefroy a exprimé sa joie d'être sélectionné pour les JO. Un rêve devenu réalité, mais il ne se contentera pas de participer. Il reste à concrétiser en remportant une médaille.
Sincèrement, quand je vois dans le bus, j'ai un collègue qui a le casque en or ou les lunettes en or ou son vélo en or, forcément que ça donne de l'envie. Et sincèrement, ouais, ça change une vie et une carrière. Donc bien sûr qu'au fond de ma tête, et je pense à ce titre, après que ce soit pour l'équipe de France ou pour moi, voilà, je pense qu'on a une équipe ambitieuse là-bas, même si on n'a pas forcément nos têtes d'affiche comme on pourrait avoir avec Julien. Mais je pense qu'on a des belles ambitions là-bas et bien sûr que le principal sur les Jeux, c'est quand même d'avoir une médaille et que les 3 premières places, il n'y a que ça qui compte et faire 4e des Jeux Olympiques, ça amène pas grand-chose.
Actuellement engagé sur le Tour de France, Benoît Cosnefroy se trouve à la 113e place. Il sera aux Jeux Olympiques aux côtés de Guillaume Martin, de David Godu, plus expérimenté, Kenny Ellison, de Rémi Cavagna et de Juliette Cabou. Cyclisme toujours, hier se courait la 7e et plus longue étape du Tour de France, 249 km entre Vierzon et Le Creusot. Étape remportée par le coureur slovène Matej Mohoric. La victoire au Creusot a donné à Mohoric une pièce manquante à sa carrière. Désormais vainqueur d'étape dans les 3 grands tours, il s'hisse en 4e position au classement général derrière Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert et Casper Asgreen qui clôture le podium. Ce samedi, la 8e étape du Tour de France partira d'Oyonnax pour se terminer au Grand Bornand en Haute-Savoie après un périple de 150,8 km. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les étapes du Tour de France sur la télé SBS. C'est tout pour l'actualité sportive ce samedi, suite du programme après la pause. C'était Voyage à Paris avec Oasis Diop.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ce programme radio est diffusé depuis les studios SBS sur les terres non cédées de peuples Bunurong, Bunurong et Wurundjeri. SBS French reconnaît et respecte les gardiens traditionnels de toutes les terres et les anciens passés, présents et émergents. Nous reconnaissons que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres entretiennent un lien spirituel et culturel unique, ininterrompu et fort avec la terre et les eaux, et pratiquent une langue, des traditions et une culture qui enrichissent notre vie et notre identité en tant que nation.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Oui, Bertrand Tonganamé pour vous accompagner ce samedi dans le programme en français. Je vous rappelle qu'on a au sommaire de cette édition les activités de l'Alliance française de Melbourne pour ce mois de juillet. On va aussi voir une campagne vidéo pour combattre l'hésitation vaccinale. Mais après la pause, ce sera autour de la rubrique rétro hebdomadaire et cette semaine on va voir le vote sur la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, donc la loi qui a promulgué la laïcité en France, le fondement même de la République française.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Notre rétro sonore comme chaque samedi. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet. Le 3 juillet 1905 était votée en France la loi instaurant la séparation de l'Église et de l'État. Une loi fondatrice de la République française. Cette loi du 3 juillet 1905, c'est notre rétro du jour avec les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel.
La loi de 1905, c'est le couronnement du modèle laïque à la française. C'est aussi le début de relations pacifiées entre l'Église et l'État. Son artisan, c'est Aristide Briand, le bras droit de Jaurès, longtemps député de Loire-Inférieure.
La République avait besoin de concilier les extrêmes, de concilier les Français entre eux pour aborder de nouvelles lois, des lois sociales.
Le génie de Briand, ça a été de dire, mais finalement, le combat doit se faire dans la société, l'État, lui, est neutre, l'État est impartial, l'État est arbitre, et tout ce que peut demander la libre pensée, c'est d'être à armes égales avec le catholicisme pour le débat d'idées. C'est à chaque famille de penser, de faire des propositions de sens et d'être attractive, disons, auprès des Français.
Votée le 3 juillet 1905, la loi est promulguée le 9 décembre. La République assure la liberté de conscience, mais ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte.
La loi sur la séparation de l'Église et de l'État.
L'Église libre dans l'État libre, disent les anticléricaux. 1902, sur la base de la loi 1901 sur les associations, les députés approuvent le président du Conseil, ce bouffeur de curé de Petit Percombe, qui expulse les congrégations n'ayant pas sollicité autorisation. Sur 1665 congrégations, seulement 910 légales. Celles qui ne le sont pas, donc des centaines, sont fermées manu militari en Bretagne par exemple. Interdiction de tout enseignement à toute congrégation, loi voulue par l'Attila des congrégations, mais la goutte qui fait déborder le calice, c'est un conflit de pouvoir sur les évêques entre Paris et le Vatican, d'où rupture diplomatique. Briand sera un étincelant rapporteur du projet, séparation des églises et de l'État. Et la loi est votée, le concordat vole en éclats, liberté de culte, mais les curés ne sont plus des fonctionnaires payés et la collectivité devient propriétaire, responsable des biens d'église. les inventaires vont commencer, déjà les paroissiens se barricadent. La France n'est plus la fille aînée de l'Église.
Ça se passait en 1905, ça. Et la différence a été grande après la loi de Combes.
Ah, la différence, ça c'est... La différence a été grande, oui, parce que... Mais c'est toujours pareil, il y en a qui n'étaient pas contents de ça. Il y avait des parents qui étaient du parti royaliste. À l'époque, il y avait deux partis, je vous disais, le parti royaliste et le parti républicain. Ah, et le village a été séparé en deux. Alors, il y a même eu des riches propriétaires qui disaient à leurs métayers, si vous envoyez les enfants à l'école laïque, je vous fous à la porte.
Alors, Philippe Levillain, c'est une victoire d'une France contre une autre, quoi.
C'est une victoire d'une France contre une autre, une victoire qui n'était pas inscrite forcément dans la donnée des débats. Parce que le débat entre cléricaux et anticléricaux et l'épanouissement de l'anticléricalisme aurait pu se faire plus tôt. Il faut d'abord souligner que les républicains, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire en réalité en 1876, avec les élections qui leur donnaient la majorité, auraient pu à ce moment-là prendre un certain nombre de mesures. Or, elles ont tardé. Et elles ont tardé parce que le problème est un problème extrêmement simple, qu'on peut résumer de la façon suivante. Rapport entre l'Église et l'État, qui sont codifiés, c'est le concordat. Que faut-il en faire? Est-ce qu'il faut rester dans le cadre de la loi, ou est-ce qu'il faut considérer qu'il y a un danger clérical en France, qui est donc le cléricalisme vis-à-vis duquel il faut réagir, parce qu'il menace la République, non seulement dans ses institutions, mais dans son développement.
Lutter pour l'humanité, pour l'avenir d'une cité fraternelle.
Eh bien, avant la séparation de l'Église et l'État, les gosses, le dimanche, allaient à l'école, chercher l'instituteur les amenait à la messe, ils venaient à la messe, et après la messe, les gosses allaient ramener les séducteurs à l'école.
Est-ce que ça n'est pas une victoire importante tout de même pour conforter la République?
C'est une victoire qui a été nécessaire dans le climat politique très spécifique du début du siècle. C'est-à-dire qu'il faut la mettre en relation avec les élections 1902 et avec les événements précédents, la crise boulangiste, l'affaire Dreyfus, où le sentiment a prévalu que finalement, une certaine liberté qui a été donnée à l'Église, notamment dans le cadre du développement des congrégations, qui échappait, chose importante, au cadre concordataire, permettait aux catholiques de s'exprimer librement dans le domaine de la presse, dans le domaine de l'enseignement, et finalement leur donnait la possibilité d'exprimer contre la République un certain nombre d'éléments qui pouvaient donner à penser qu'il y avait l'espoir que la contre-révolution s'organisât, alors que la République se voulait, très strictement, se veut, l'héritière de la Révolution tout entière.
Alors ça va changer quoi, cette loi?
Ça va changer beaucoup de choses. Ça va d'abord entraîner une conséquence fondamentale, à savoir que le clergé qui, jusqu'à présent, était dans une position de fonctionnaire, va se trouver dans une position d'indépendance et va, d'une certaine façon, se trouver démuni. On peut penser qu'il va très vite se présenter la figure d'un prêtre plus près des masses, d'un prêtre pauvre, d'un prêtre qui sera confronté, par exemple, au monde ouvrier, avec lequel il aura un destin commun.
En février 1906, le pape Pie X condamne la loi dans une encyclique. Un peu partout en France, l'inventaire des biens ecclésiastiques par les fonctionnaires de la République provoque des manifestations, parfois violentes, notamment à Paris. Ce n'est qu'en 1907 que les esprits s'apaiseront, grâce entre autres à la décision de Georges Clemenceau d'arrêter les inventaires. L'Église se rallie alors à la loi de 1905.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Oula côté moine, un morceau de Orlan, c'est tiré de son album Horizon Libre. Temps de passer à une pause, mais restez avec nous parce qu'après la pause, on va retrouver Jeanne Noël, la directrice de l'Alliance française de Melbourne, pour nous parler des activités de l'Alliance de Melbourne pendant ce mois de juillet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Plaisir d'avoir Johanna Durand qui dirige l'Alliance française de Melbourne. Bonjour Johanna.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous les auditeurs.
Et pour la première fois, on se parle par Zoom. Généralement, vous venez dans les studios de SBS, mais les temps ont changé.
Oui, c'est le temps de l'hibernation. On reprend nos vieilles habitudes de 2020.
On va aborder le volet culturel. L'Alliance française sera présente au Bastille Day French Festival à Federation Square le 16 et le 17 juillet prochain. C'est un vendredi et un samedi.
Absolument. Le mois de juillet est vraiment sous le signe de la fête nationale française. On a la chance que toute la communauté française est à Melbourne et va rester à Melbourne pour le mois de juillet. Donc, on sera ravis de se réunir. Et en fait, il va y avoir des célébrations pendant tout le mois de juillet. Donc, c'est vraiment un mois qui est excitant et c'est le moment de sortir et pas le moment d'hiberner. Donc, il y a énormément d'activités, de fêtes, de célébrations pour tous les goûts. Donc, ça va commencer le 10 juillet. Au Meat Market, où il y a une soirée disco, Bastille Day Disco, qui est organisée par So Frenchy So Chic. Donc, on commence fort. 4 jours après, le 14 juillet, donc pile le jour de la fête nationale, il y a l'ouverture sur Federation Square et l'inauguration d'une installation d'un artiste français qui s'appelle Cyril Lancelin, qui est une installation donc en extérieur, qui est gratuite et que tout le monde peut venir voir sur la place. Qui est rose et qui est magnifique. Donc, je pense qu'il va plaire et qui s'illumine la nuit. Donc, qui va plaire aux jeunes et à leurs parents. Donc, ça va être très intéressant. Et autour de cette installation d'art contemporain de Cyril Lancelin, il y a également des discussions, des ateliers, beaucoup d'activités à la fois pour les parents et les enfants. Donc ça, c'est à suivre sur le site de Federation Square en partenariat avec l'Alliance française. Donc beaucoup d'activités. Et puis, comme vous l'avez mentionné, Bastille Day, bien sûr, le festival Bastille Day qui est une institution aujourd'hui à Melbourne et qui se tiendra effectivement les 16 et 17 juillet sur Federation Square. Donc, vous pourrez nous retrouver avec un grand stand où vous pourrez faire des tests de niveau, par exemple, si votre partenaire souhaite apprendre le français ou vos amis. Il y aura toutes les informations sur les cours de français pour les enfants, pour les francophones, les non-francophones. Il y aura des activations avec des photos, des cadeaux. Il y aura plein de choses pour fêter Bastille Day ensemble. Et puis, juste à côté, à la mairie de Melbourne, il y aura une grande exposition qui s'appelle France Émotion. C'est une exposition voyage. Une exposition de 4 photographes internationaux du Bénin, Brésil, États-Unis, Espagne, qui, avec leur regard particulier, ont photographié des lieux mythiques ou des lieux un peu moins connus à travers la France. Donc, c'est un grand voyage suivant différentes thématiques. Et vraiment, vous êtes en immersion. Vous allez avec votre téléphone, la petite appli qui permet de se connecter sur les photos. Et en fait, quand vous regardez la photo, vous mettez votre téléphone et ça s'anime. Donc, vraiment, vous êtes transporté dans la photographie. Et il y a tout un côté, un volet interactif qui fait que vous pouvez voyager depuis la mairie de Melbourne en France directement. Donc ça, c'est grâce au soutien de l'ambassade de France et de l'Alliance française, on a mis en place cette exposition avec Atout France. Donc ça va être très beau et c'est gratuit. Donc c'est uniquement le 16 juillet de 11h à 18h et le samedi 17 juillet de 10h à 5h. Donc ça va être très, très, très émouvant et un regard nouveau sur la France. À l'occasion du Bastille Day, il y aura également une discussion sur les clichés français. Donc ça, ce sera dans le théâtre qui s'appelle The Edge. C'est en anglais, mais avec des intervenants français tout autour des clichés français. Donc voilà, il y aura un point de vue d'une anthropologue, un point de vue plutôt cinéma sur les séries françaises, et puis des intervenants franco-australiens qui vont débattre sur les clichés français. Et c'est quelque chose qui va être à la fois instructif et puis humoristique. Donc c'est promis, vous allez passer un excellent moment. Donc voilà, tout le mois de juillet va être très très occupé. Il y a toujours des films qui sont dans les cinémas. Cinéma Palace aussi, du Festival du film français qui a eu lieu en mars. Donc, si vous en avez raté, vous pouvez toujours les voir au cinéma. Et puis, on aura également des projections sur Federation Square. Donc, ça va être... c'est le moment de sortir au mois de juillet à Melbourne.
Absolument. Et il ne faut pas aussi rater l'exposition French Impressionism qui a lieu à la Galerie nationale du Victoria en ce moment.
Absolument, une exposition extraordinaire sur les impressionnistes français. Il y aura également des conférences et des discussions autour de cette exposition, des visites guidées. Et puis, pour ceux qui souhaitent perfectionner leur français, nous avons des cours autour de l'expressionnisme français où le commissaire d'exposition de la NJV intervient également, Ted Gott. Donc, ça va être très... très intéressant et voilà, on voyagera aussi dans le temps.
Et sinon, Johanna, sur le plan national, vous avez ce défi inter-alliance. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Oui, tout à fait. Eh bien, et ce n'est pas seulement au niveau national, c'est au niveau international également. Oh, wow. Donc, on a mis, en fait, en Australie, il y a 29 alliances françaises, donc de Darwin jusqu'à Hobart. Toutes ces alliances françaises se sont réunies pour trouver comment motiver nos apprenants, alors que pour l'instant, ils peuvent seulement planifier leur voyage en France ou en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a choisi de faire une compétition internationale de français. Donc, c'est à partir du niveau B1, question de culture générale. Donc, il y aura une compétition locale dans chaque ville, ensuite au niveau national et puis au niveau international avec des très beaux prix à gagner, comme un voyage, un séminaire d'insertion à l'Alliance française de Rouen, etc. Donc, c'est le moment de se frotter et d'entrer dans la compétition sur la culture française. Donc, ça va être assez chouette. Et puis, c'est le moment de se mesurer à d'autres locuteurs de français. Donc, un moment excitant en perspective. Et pour les plus jeunes, il y a le concours Berthe Mouchette qui a lieu actuellement aussi avec plus de 10 000 apprenants de français, donc des écoles primaires et secondaires. Donc on se motive à l'Alliance française.
Sinon, les cours continuent. Il y a les Winter Intensive Courses à partir du 5 juillet prochain.
Absolument. Donc, que vous souhaitiez un cours sur une période simplement pour les vacances, pour vous rafraîchir, ou si vous voulez faire 5 semaines ou 10 semaines, quel que soit votre niveau, on a une collection, la collection hiver des cours de français est sortie à Melbourne. Donc, il y a tous les niveaux, pour tous les âges, pour tout le monde, à Melbourne et dans le Victoria, puisque nous avons nos cours en ligne qui continuent sur tous les niveaux. Et à Melbourne, donc, nous sommes sur 3 sites, au centre-ville, à Sainte Kilda, et nous venons d'ouvrir à South Yarra.
Donc, c'est un local temporaire, ça s'appelle The Commons à South Yarra.
Exactement, ce sont des salles toutes neuves qui viennent juste d'ouvrir et qui sont très pratiques à côté de la gare de South Yarra. Donc comme ça, on a une belle couverture et tous les Melbourniens sont bienvenus et on reste accessible à tous.
Et après les vacances, Johanna, vous abordez le deuxième trimestre, c'est à partir du 12 juillet ?
Exactement. Et pour bien rester motivé, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile d'apprendre le français à la maison quand on peut pas voyager, on s'est rendu compte que certains avaient besoin d'un petit coup de pouce. Donc nous lançons un nouveau produit qui s'appelle My French Coach. Donc pour tous les apprenants de français, peu importe leur niveau, peu importe où ils sont, s'ils s'inscrivent pour 2 termes, donc le terme 3 et le terme 4, ils ont gratuitement un service de coaching en anglais pour les aider dans leur aventure et leur apprentissage du français, pour rester motivés, fixer des objectifs, mesurer les progrès, les avancées, peut-être réviser s'il y a des points qui leur paraissaient plus obscurs, et rester motivés et constants, puisque c'est la clé de l'apprentissage, c'est de ne pas s'arrêter. Donc on vous tient la main et puis on reste avec vous pour que ce soit un succès assuré, à la fois pour les étudiants de VCI, puisqu'on sait que c'est pas facile quand on prépare un examen, mais aussi pour ceux qui veulent préparer le DELF, qui aura lieu au mois d'octobre et novembre. et pour ceux qui veulent voilà, simplement s'assurer de leur réussite et de leur progrès. Donc, il y a cette offre qui est limitée. Donc, c'est premier inscrit, voilà, base, sur la base du premier inscrit. Et c'est gratuit pour ceux qui prennent deux termes à l'Alliance française.
Et autre activité peut-être que j'ai ratée à l'Alliance française
de la Bonne. Il y a tellement de nouveautés. Ce que je vous invite, c'est plutôt à regarder sur notre site web qui a été rafraîchi, donc ouais. afmelbourne.com.au. Et également, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous inscrivez à notre bulletin d'information, La Minute, qui a été revisité. Donc, c'est notre tout nouveau bulletin qui est tout joli. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le recevoir gratuitement dans votre boîte email et vous aurez les informations les plus fraîches avec tous les événements, des cadeaux. Voilà. Il y aura plein de choses, plein de ressources. Et puis toujours Culture Tech qui est gratuit pour nos membres. Donc, vous pouvez avoir accès à toute la presse française en ligne, également des livres à télécharger. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba pour ceux qui aiment lire et écouter en français. Il y a aussi de la musique.
Merci, Johanna. Rendez-vous donc aussi à Federation Square le 16 et le 17 juillet prochain.
Tout le mois de juillet, c'est le mois de célébration et de fête nationale. Donc, on compte sur vous. C'est le moment pour la communauté francophile et francophone de Melbourne et du Victoria de rester soudés et unis et positifs.
Johanna, merci à vous et à très vite sur SBS French.
Merci beaucoup. À bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
À présent, un rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 35 nouveaux cas de COVID-19. Selon la première ministre de l'État, cela témoigne du succès du verrouillage de la ville de Sydney. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'inégalité actuelle des vaccins. Et selon un rapport publié en France, 3 EHPAD sur 4 ont été touchés par le COVID-19 en 2020.
Yo! Yo, rude boy! Jaguar Gargan, Cool Chain, Lotto City, come back again, the man! SB1 from the track! Every time I'm coming with Elkar!
Clash, clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Donc, move ton body, fais bander les bandits, puis ton bande a brandi. Le temps sortira grandi, tu sais ce qu'on dit. Faut que ça glisse.
Et c'était ma band et ce morceau nous amène à la fin de cette édition. Merci de nous avoir tenu compagnie aujourd'hui. Votre prochain programme sera présenté demain par Jean-Noël Ducasse. Quant à moi, je vous souhaite un très bon après-midi et un agréable week-end. À très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.